Les écrans philosophiques, un cycle conçu et organisé par la Maison Populaire, le Collège International de Philosophie et le Cinéma Le Méliès, en collaboration avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enregistrement de la séance du mercredi 30 mars 2011, à l'issue de la projection du film Rosemary's Baby de Roman Polanski, États-Unis 1968, présenté par Patrice Maniglier, docteur et agrégé de philosophie. Ancien élève de l'École normale supérieure Ulm, enseigne la philosophie au Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, directeur de programme au Collège international de philosophie. Présentation suivie d'une discussion avec la salle.
Un délire de maternité. Et puis l'autre indice que vous avez laissé, c'était sur l'appartement. Mis ces deux indices ensemble, mais en gros, l'idée que je voudrais soutenir, c'est que ce film présente en fait la folie comme un problème d'espace, et d'une manière générale, présente le problème de la réalité, d'une manière générale, comme un problème de construction d'espace. En fait, ce qui est intéressant dans ce film, il y a bien des choses qui sont intéressantes dans ce film, comme souvent, mais ce qui est particulièrement intéressant dans ce film, et c'est là où est son secret, c'est qu'il a construit un espace cinématographique tout à fait unique, en tout cas extrêmement rare dans le cinéma, parce que cet espace qui a l'air d'être un espace cinématographique normal, un espace illusionniste, qui se passe à quelque chose comme 90%, je ne sais pas, peut-être vous en êtes rendu compte, à l'intérieur de l'appartement, c'est un huis clos, et bien en fait, cet appartement, cet espace du film est un espace impossible. Donc, c'est pas du tout en vérité un espace illusionniste que vous voyez, mais c'est un pur espace optique, une pure construction cinématographique, de pures images en réalité. Et c'est ça en fait le secret de ce film. Alors je vais essayer de le développer un peu, mais je voudrais d'abord vous dire d'où j'ai tiré ça. Et c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est pas des critiques de cinéma qui ont découvert ça. En fait, ce sont des artistes. C'est un cas intéressant dans lequel, finalement, des artistes qui font de l'installation vidéo, mais en général, qui sont des architectes de formation, ont, par leur œuvre, eu une fonction critique que les critiques de cinéma n'ont jamais eue. Donc j'ai un peu recensé toute la littérature sur la question, et personne n'avait jamais remarqué qu'en effet, cet espace est très étrange. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, en fait, c'est une exposition qui a eu lieu il y a quelques années, en 2008, je crois. Slide suivante, il y a la date. Voilà, c'est ça. Qui est faite donc par un groupe d'architectes qui s'appelle DM, Ciel de la Fontaine et Grégory Niel, donc en 2007, à Montpellier. Donc, ils ont fait une exposition qui s'appelait Rosemary's Place. Non pas Rosemary's Baby. Donc, Rosemary's Place, c'est ça, ça veut dire là où se trouve Rosemary, mais ça veut dire aussi l'appartement de Rosemary en anglais. Hein. Would you come at my place tonight? Donc c'est aussi l'appartement. On va passer à la slide suivante et on va vous se promener dans cette installation assez rapidement. Donc ça se présentait comme ça, oui, c'était assez obscur au départ, il y avait une sorte d'écran au fond et puis quelque chose qui indiquait l'entrée de cette manière-là. Dans la diapositive suivante, on se rapproche un peu plus. On va passer à la diapositive assez rapidement. Là, vous aviez une grosse architecture comme ça, monobloc, avec des simèses qu'on voyait à l'envers, comme si vous étiez à l'envers d'un décor d'une exposition. Et on va passer à la diapositive suivante. Et puis donc, on pouvait rentrer dans ce décor, rentrons-y, diapositive suivante. Et voilà ce qu'on voyait, donc une sorte d'espace complètement blanc, avec des effets de lumière assez impressionnants sur lesquels je reviendrai. Diapositive suivante, décalons pas l'image, non. Restons avec l'image, à moins que ce soit le diable qui intervienne bientôt. Alors, diapositive suivante, voilà. Donc, en fait, c'est le même espace vu dans l'autre sens. Diapositive suivante. Donc, on va se promener un peu là-dedans, dans cet espace. Voilà. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Et voilà. Donc, là, on avait des effets de lumière, comme ça, qui. Vous voyez, ici, la même pièce qui est éclairée de différentes manières, parce qu'il y avait ces néons qui s'allumaient et s'éclairaient d'une manière dont on ne comprenait pas bien la logique. En fait, en réalité, elle est liée au déplacement de Rosemary dans l'espace du film, parce que c'est une reconstitution de l'espace du film, comme je vais vous le montrer, diapositive suivante. Et voilà, là, par contre, décaler peut-être un tout petit peu, si on peut. Alors, c'est une reconstitution de l'espace de l'appartement que les architectes avaient fait. Et s'ils avaient reconstitué l'espace de cet appartement de manière complètement débarrassée de tout décor, le décor étant extrêmement important dans le film, hein, parce que le décorateur, qui est d'ailleurs un décorateur extrêmement important d'Hollywood, Dick Siebert, avait pris, et c'est dit dans le film, avait pris des images qui venaient des magazines de l'époque, c'est aussi un film en quelque sorte historique, sur son propre temps, enfin c'est extrêmement documenté. Je vous ai dit, il date de 68 et il est daté à, le film lui-même est daté de 1966, c'est-à-dire du moment de la visite du pape aux États-Unis, qui était une visite historique. Et donc ils ont la coiffure, les papiers peints, les meubles, vous voyez, le canapé, tout ça, est entièrement pris des revues. Donc c'est un appartement qui est déjà lui-même construit à partir des images anticipées qu'en donnent les revues. Bon, donc la reconstitution que les architectes en avaient fait enlevait tous ces éléments anecdotiques du décor pour ne garder, bien sûr, que le plan. Si vous videz un espace entièrement et que vous le produisez comme un environnement entièrement blanc, ce que vous avez, c'est effectivement l'espace lui-même. Comme dirait Mallarmé, rien n'aura lieu que le lieu. Donc, c'était ça qu'on avait dans cette exposition. Et pourquoi l'ont-ils fait? Eh bien, précisément parce qu'ils ont remarqué, en voyant le film d'abord, que cet espace était vraiment curieux et en réalité inconstructible. Alors là, je vous ai mis une série d'images dans lesquelles on voit les mêmes pièces vues de deux points de vue différents. C'est pour ça que c'est important d'avoir le petit PowerPoint, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il est difficile de voir dans sa mémoire. Alors, on a une impression de cet espace, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais on a l'impression d'un espace qui est quand même extrêmement compliqué. Alors que c'est un espace extrêmement simple en réalité. Il y a quatre pièces, elles sont partagées autour d'un couloir central, mais c'est un espace qui laisse assez dans un certain inconfort. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il est surchargé de cadres. Il y a des cadres à l'intérieur de cadres, à l'intérieur de cadres. Donc déjà, ça crée un sentiment de labyrinthe optique. Et puis, réellement, en vérité, le décor, les dimensions du décor ont changé. C'est-à-dire qu'entre ces deux images, si vous faites une projection dans l'espace de ce que l'image vous donne, parce que ce sont des images en perspective, et quand vous avez une image en perspective, ça veut dire que vous pouvez construire un plan à partir de votre image. C'est même inversement, ça veut dire que vous pouvez construire une image à partir d'un plan. Et bien, si vous construisez l'espace, si vous imaginez le plan de l'espace que cette image vous indique, et bien ce n'est pas le même d'un côté et de l'autre. Image suivante, et vous allez voir que ça apparaît plus clairement ici. Vous voyez par exemple que la porte est complètement écartée sur l'image de gauche par rapport à ce qu'elle est sur l'image de droite. Image suivante. Pareil ici, alors en plus vous voyez, je pense, le fait que ces effets de désorientation sont dus en même temps à ce surcadrage des espaces. Image suivante. Voilà, vous voyez aussi sans doute que l'usage d'une... Vous voyez que ces images sont quasiment tout le temps nettes. Ça veut dire en fait que vous avez des focales très courtes. Enfin, vous avez donc un élargissement de l'espace, un étirement ou une déformation qui va avec le fait que la caméra en gros suit tout le temps Rosemary. Donc vous avez un point de vue très subjectif sur cet espace. Ça ne veut pas dire que ce soit un point de vue complètement subjectif. Ça ne veut pas dire que vous voyez le monde du point de vue de Rosemary. Vous le voyez plutôt à la manière dont on voit aujourd'hui dans les jeux vidéo le monde du jeu vidéo avec ses perspectives quasi subjectives. Vous voyez, vous avez le personnage, vous êtes derrière l'épaule en quelque sorte du personnage. C'est très souvent comme ça dans Rosemary. Ça veut dire que l'espace que vous avez est un espace un peu subjectif. Alors, image suivante. Et voilà ce que vous obtenez, en fait, le plan que vous obtenez si vous cherchez à projeter tous les plans du film. Et il faut être architecte pour faire ça, il faut être aussi un peu artiste contemporain pour faire ça. Et en fait, comme vous voyez, c'est une superposition impossible. Donc l'appartement qui a été filmé est un appartement impossible, c'est-à-dire ce serait l'ensemble ou la synthèse de tous les espaces que nous avons vus, mais cette synthèse ne peut pas exister, en tout cas pas exister en même temps. Or c'est ça qu'on veut quand on veut un espace. Quand on a un espace, on veut précisément une synthèse synchronique en même temps d'un grand nombre de plans différents. On peut s'assurer de pouvoir retrouver quand on y revient. Que vous voulez quand vous voulez un espace, enfin en tout cas un certain type d'espace, c'est que si vous faites 10 pas dans une direction, vous savez qu'il vous faudra 10 pas pour revenir. Il y a une invariance de l'espace, n'est-ce pas? Et bien, c'est ce que vous n'avez pas dans Rosemary. Et si vous n'avez pas d'invariance de l'espace, et bien, en fait, vous n'avez pas d'espace objectif. Ça, c'est une manière de définir ce que veut dire objectif. Ce que veut dire objectif, ça veut dire ce qui reste invariant malgré toutes les transformations que nous lui faisons subir. Si vous pouvez retrouver des invariances, vous pouvez vous assurer d'une certaine forme de réalité. Position philosophique qui, à vrai dire, vient de Poincaré. Il y a même un nom, le réalisme structural. Mais en fait, on s'en fiche à la limite de ce nom. Ce qui nous importe ici, je pense, c'est qu'on comprend bien qu'il y a cette incompossibilité des plans de l'appartement. Et ça veut donc dire que ce que nous voyons ne peut rester qu'éternellement une image. On ne peut jamais être projeté. Donc c'est un espace entièrement optique, autrement dit entièrement cinématographique. Est-ce que l'image suivante? Alors c'est un truc, ce truc des déformations de perspective, c'est un truc que Polanski avait déjà utilisé dans deux films précédents, deux films qui portaient, eux, explicitement, cette fois-ci, sur la folie. Le premier, c'est Répulsion, avec Catherine Deneuve, qui est alors explicite sur l'entrée dans un délire paranoïaque meurtrier de la part de cette jeune femme pour des raisons sexuelles. Et dans la scène vraiment de sa crise psychotique, l'espace devient animé et déformé. Il y a les mains qui sortent des murs et surtout l'espace se déforme considérablement, les dimensions s'altèrent et c'est censé évidemment représenter la folie. Autrement dit, la folie serait quelque chose comme une déformation de l'espace. Sauf que dans Répulsion, et puis aussi dans l'image suivante, c'est dans le locataire. Ah oui, pardon, là c'est les mains. Voilà, le locataire. Donc ça, c'est les décors du locataire. Et dans le locataire, c'était aussi la même chose. De même, Polanski avait construit des perspectives inversées, des trucs. Perspectives inversées, ça veut dire que normalement, quand vous avez une perspective, n'est-ce pas, ce qui est au fond est plus petit et s'agrandit quand vous avancez vers lui. Perspective inversée, ça veut dire au contraire que c'est plus grand et ça rapetisse quand vous avancez vers lui. Et donc, il a construit des choses comme ça, à chaque fois, bien sûr, pour montrer la folie. Mais dans les deux films qu'il avait fait au préalable, cette folie était en quelque sorte localisée, était circonscrite. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres images dans le film qui nous rappelaient que celles-ci étaient des images anormales, des images extraordinaires, des images excentriques. Dans Rosemary's Baby, pas du tout. C'est-à-dire que c'est tout le film qui est un délire. Voilà, donc ça, ce sont un certain nombre d'indices qui vous indiquent ce que je disais tout à l'heure, à savoir que ce film ne représente pas une action, mais plutôt restitue un délire. C'est assez beau, en fait, comme truc, parce que c'est un véritable truc. C'est-à-dire, imaginez ce jeune réalisateur à qui on demande de faire un thriller sataniste et qui glisse à l'intérieur quand même du monde le plus storytelling du monde, quoi. C'est Hollywood, quand même. Dans Hollywood, on n'est pas censé faire des œuvres qui rappellent l'existence du médium ou qui attirent l'attention des spectateurs sur le fait que ce soit un film. Hein. Ce genre de technique comme ça, de distanciation ne sont pas du tout appréciées à Hollywood. Eh bien, au contraire, si vous voulez, c'est un signe très caractéristique du cinéma européen. Vous avez ça, je sais pas, par exemple, chez Godard, tout le temps, il y a des faux raccords, exprès, explicites. Il y a, je sais pas, dans Pierrot le Fou, par exemple, il se retourne vers la caméra, en regardant la caméra, Belmondo, en disant « Eh ouais !» Quelque chose comme ça, vous voyez, d'une manière qui indique, des techniques qui indiquent la caméra. C'est interdit, Hollywood. Le faux raccord est une faute. C'est une faute, mais en fait un péché. Seulement un péché, mais aussi une erreur économique. Pas donc faire ça, c'est quand même extrêmement malin. C'est-à-dire il a distribué sur l'ensemble de son film un truc qui replie l'espace cinématographique, le film véritablement sur lui-même, et qui nous empêche d'en sortir, et qui l'empêche de le représenter. Il a créé un truc moderniste dans une histoire incroyablement hollywoodienne. Et en le faisant, il n'avait pas simplement des intentions, de faire le mauvais garçon, mais il avait aussi, je crois, des intentions philosophiques. Et ces intentions philosophiques tenaient précisément à cet intérêt qu'il a toujours eu, je crois, pour la folie, qui consistait à essayer de chercher la folie, ou de définir la folie, comme précisément la désorientation. l'impossibilité de s'orienter dans un espace, de se situer de manière univoque et localisée dans un espace. Donc c'est ça, le projet de Polanski. Et pour moi, ça a été extrêmement utile de réfléchir sur tout ça pour justement essayer de réfléchir à nouveau sur l'articulation entre, disons, le monde objectif et les représentations subjectives qu'on en a. Puisque finalement, ce que Polanski nous montre, c'est qu'une représentation est vraiment subjective à partir du moment où elle ne permet pas de déduire la position du sujet dans l'espace qu'il se représente. Et en vérité, nous avons, grâce à la perspective en particulier, l'illusion de croire que c'est possible. C'est-à-dire qu'à partir de représentations que j'ai du monde, je peux déduire la position exacte que j'occupe dans ce monde. Mais comme vous le savez, la perspective a deux contraintes qui sont fausses. Une première qui est l'immobilité absolue du sujet, et la deuxième, c'est le caractère infini des deux espaces, aussi bien de l'espace de votre image, de votre représentation, que de l'espace dans lequel vous êtes. Caractère infini, anisotrope, homogène, donc indifférent, complètement égal à lui-même et non orienté de l'espace dans lequel nous nous trouvons et de l'espace que nous représentons. Donc ces deux caractères, ce caractère d'immobilité, ce caractère d'infinité et d'indifférence, sont deux propriétés que nous devons exiger de l'espace pour pouvoir faire la différence entre subjectif et objectif. Et bien, ce que le cinéma montre, c'est qu'on peut penser ça autrement. On peut penser justement la représentation en termes de mouvement. On peut mettre le sujet en mouvement et penser ce que voudrait dire reconstruire un monde objectif pour un sujet qui se meut à l'intérieur de cet univers. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça voudrait dire pouvoir rendre compatibles nos grilles de projection. C'est ça le petit message philosophique que moi j'ai tiré de Rosemary Baby, par l'intermédiaire de l'œuvre de D.L., Rosemary's Place. C'est que le monde n'est pas le corrélat de ma représentation, mais le monde est plutôt ce que j'obtiens si j'arrive à traduire les grilles de projection, grilles de représentation, dont nous disposons à différents points de l'espace et les différents êtres que nous sommes. Donc le monde n'est rien d'autre que justement cet espace de traduction à l'intérieur duquel nous pouvons faire correspondre ou traduire nos grilles de représentation. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous suggérer sur Rosemary. Alors, je crois qu'il y a une dernière slide ou une... Ah oui, non, c'est le plan d'installation, après. Ah oui, ça, c'est le corrélat entre les deux. Continuez. Voilà, ça, vous voyez, l'installation, c'est pour montrer la manière dont l'installation reproduisait exactement les vues du film. Encore, on va arriver à la fin. Et voilà, il y a un petit livre que vous pouvez même lire. Moi-même sur cette œuvre. Voilà.
Merci.
De rien. Alors, est-ce que vous avez vu cet espace tordu? Vous êtes d'accord avec moi sur le fait que cet univers est un univers délirant?
Absolument.
C'est vrai? Oui, il y a des objets qui...
Dans le réel, dans le tournage, je veux dire, ça veut dire qu'ils déplaçaient certaines cloisons par rapport à d'autres.
Ouais. Oui, c'est ça, ils avaient construit un décor mobile. C'est ça la beauté de la chose, d'ailleurs. C'est un espace, effectivement, qui était sur des rails, sur des roulettes. Hein. Et ça permettait, effectivement, d'altérer les dimensions et les angles aussi. Du décor à volonté. Donc le décor n'a jamais été construit intégralement. Il construisait des portions du décor. Évidemment, c'était pas, ça ne pouvait pas être rassemblé. C'est pas un endroit, c'est pas un espace dans lequel on peut plonger un regard. C'est un espace qui n'existe que pour un regard.
S'il vous plaît, vous pouvez demander le micro parce que la séance est enregistrée. On ne vous entend pas si.
Oui, je ne sais pas si c'est pas un peu un piège, moi, de passer par les architectes pour
pour repérer ce genre de secret. Mm-hmm. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus abstrait qu'un dessin d'architecte ou même qu'un travail d'architecte? Quand on relit ça, bon là, bon, je suppose qu'ils ont fait ça avec des logiciels, hein. Bon, mais si on passe par la perspective du Quattrocento, si on prend Brunelleschi, si on prend cette perspective de Alberti, ou qui ne marche que s'il y a un point unique de position pour le spectateur, et même un œil unique, parce que dès que vous avez deux yeux, ça marche plus cette affaire-là.
Ouais, même dès que vous en avez un, en vérité.
Oui, mais cet œil unique, c'est un petit peu l'avatar de Dieu, hein, celui qui regarde de son point unique de toute puissance. Et donc, on passe par les architectes, c'est un peu le contraire de la vie, je dirais. Or, si on reste dans cette perspective là, du film de Polanski sur la folie, un petit peu, c'est bien là qu'on est dans la vie. Alors, il me semble qu'il y a une contradiction, moi. Parce que, comment dirais-je, dire comme vous le dites, que voir le monde, en quelque sorte, enfin disons, oui, avoir une représentation du monde et comment je me situe comme sujet dans le monde, ça dépasse de loin la simple métaphore architecturale ou spatiale. C'est quand même, on est dans le symbolique, on est dans le palpitant, on est dans la chair, entre autres. Alors, moi, ça me suffirait, disons, pour regarder Polanski. Bon, la question des installations, moi je pensais, quand vous avez démarré sur les artistes et vous avez parlé des architectes, je me serais un peu arrêté au photographe. Il y a un plasticien qui fait c'est pas exactement des installations, il s'appelle Georges Rousse, c'est un photographe. Et alors lui, il reconstitue des espaces comme s'ils étaient vus d'un point de vue, photographique, d'un point. Bon, il fait l'illusion à l'envers, en fait. Bon, et je serais plus là dans un espace, comment dirais-je, palpable. Alors que, bon, encore une fois, ces plans d'architecte, moi, me semblent un petit peu froids, quoi. Ouais. Bon, mais je pourrais encore parler pendant des heures, je vais passer le micro à quelqu'un d'autre.
Non, mais c'est. Effectivement, si, sur les plans seulement, je pense que ça rend plus ou moins bien, mais n'oubliez pas qu'en l'occurrence, c'était une expérience d'immersion dans un espace. Qui n'était pas du tout abstrait. C'est un espace très blanc, très vif, où il y avait des lumières tellement vives que la couleur devenait presque poudreuse. C'était assez charnel comme expérience. Mais sur l'aspect charnel, il y a une autre chose qu'il faut signaler pour Rosemary Grady, qui est très juste, c'est que c'est quand même un film sur l'incarnation. Et donc il est bien question, effectivement, d'un corps dans un corps. Mais ça, c'est une question d'espace, l'incarnation. C'est aussi une question d'espace. Et c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, sauf que je ne dirais pas comme vous que l'œil idéal de la perspective classique est l'œil de Dieu. Je pense que ce n'est pas l'œil de Dieu. Je pense que l'œil de Dieu, ce serait plutôt l'œil qui permet de voir en même temps toutes les perspectives à la fois et leur géométrage. Nous étions un peu l'anitienne. Et justement, l'œil humain est quand même limité idéalement. Certes, même ça, il n'y accepte pas dans la réalité, mais à la limite, on s'en fiche qu'il n'y accepte pas. Dans la réalité, ce qui importe, c'est que même conceptuellement, il n'y accepte pas. C'est-à-dire la possibilité d'une vision immédiate de toutes les perspectives, c'est-à-dire des manières de diviser ou de couper le monde, et de leur géométrage, c'est-à-dire des manières de ne pas s'y impliquer, vous voyez, est impossible. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'incarnation? Ça veut dire justement qu'un point de vue comme celui-ci, un point de vue absolu, peut être en même temps localisé, relatif. C'est le mystère de l'incarnation. C'est la venue de l'infini dans le fini, de l'absolu dans le relatif, du non-localisable dans le local. C'est daté, c'est un corps, un site, une date. Donc, et ça, ce film part vraiment de ça. Et alors, c'est d'autant plus, j'ai remarqué ça en lisant justement des textes sur la perspective, notamment des livres de Arras. C'est que il y a certains peintres de la Renaissance qui utilisent la perspective à l'envers, c'est-à-dire qui utilisent la perspective pour dénoncer la perspective. En fait, ils ont horreur de la perspective. Ils ont horreur de la perspective pour des raisons théologiques. C'est-à-dire qu'ils pensent que la perspective donne l'illusion qu'on peut capturer l'infini dans le fini. Ça, c'est abominable. Parce qu'il y a un truc qui doit résister, bien sûr, à la représentation ici-bas c'est Dieu. Et il y a quelque chose qui leur semble particulièrement irreprésentable, c'est l'incarnation. Et donc, alors c'est dans un texte de Arras où il parle d'une annonciation de Francesco da Costa, où il y a un gros escargot sur le tableau. Et Arras, en fait, cherche à voir où se trouve l'escargot. Oui. Où est Rosemary? Où est l'escargot? Et en fait, il se rend compte que l'escargot est trop gros pour être nulle part. Et l'escargot est sur la toile. Donc, autrement dit, il est sur la surface d'inscription, il est en train de dénoncer la projection perspective. Il est en train de dire une projection perspective, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas possible. En tout cas, pas une projection perspective de l'incarnation. Bordel! C'est même pas ça. Vous voyez. Eh bien, je pense que Polanski fait quelque chose du même genre, mais évidemment de manière perverse, littéralement, c'est-à-dire en prenant les choses, en renversant tous les termes, c'est-à-dire qu'il fait une contre-incarnation de Dieu, de Dieu au diable, du Christ à Adrien, et ce qu'il s'agit de montrer, c'est au contraire justement la disjonction des points de vue. Tout à l'heure, je disais, l'œil de Dieu, c'est celui qui voit tout à la fois, tous les points de vue, et leur compatibilité. Ben, là, le diable, ce serait celui qui justement, ou l'espace diabolique, serait l'espace qui rend les perspectives incompossibles, qui insère un point, comme ça, dans la conciliation entre les espaces. Et c'est ça que fait Adrien. Alors voilà, ça, ce sont des... À la limite, vous pouvez prendre ça comme des métaphores spatiales. Pour parler, pourquoi pas, de la grossesse. C'est tout à fait, c'est, ça peut aller dans les deux sens. La grossesse peut être une métaphore pour parler de problèmes métaphysiques, ça, mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que les questions métaphysiques sont là pour parler de l'angoisse, que je ne connais pas, de porter dans son corps un point de vue subjectif différent du sien. Au même lieu que toi. C'est vrai que ça a l'air un peu angoissant comme expérience quand tu y penses. Ça n'est pas simple. C'est vrai que c'est très angoissant. Et ça, on le voit dans le film. C'est très bien fait. C'est quand soudain, il dit on le sent. Bon, je dirais que c'est banal, mais là, c'est pas banal. C'est le point où la douleur s'arrête. Ben voilà, bref, pardon. C'est moi aussi, je pourrais parler des douleurs.
Vous parlez de perspective, la perspective inversée servait à partir du Concile de Trente pour donner la position de Dieu. Si on prend les Giotto qui sont au Louvre, la perspective de la chaise est inversée. C'est-à-dire que le point de fuite, c'est le spectateur. Hein? Mais il me semble que pour évoquer la folie, il aurait pu utiliser des perspectives curvilignes, qui sont un autre code. Ce que vous dites sur le mélange.
Oui, enfin pour les Giotto, je ne sais pas, parce que Giotto, quand même, la perspective, c'est quand même quelque chose de plus précis que la représentation de la profondeur sur une surface. C'est une technique. Qui consiste, c'est ça qui est intéressant, la perspective, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'en général on ne comprend pas, parce que l'invention de la perspective est vraiment géniale, c'est vraiment très très beau. Pourquoi? Parce que c'est justement, jusqu'à présent, et c'est vrai aussi chez Giotto, malgré tout, même si c'est bien sûr, on sent que ça tend vers une homogénéisation de l'espace chez Giotto, mais avant l'invention stricte de la perspective, au fond la profondeur est indiquée par des objets. Justement par des objets profilés, des plans. Voilà. Et donc, par des plans, et donc vous avez un truc qui s'incline un peu vers l'arrière, ça veut dire, ou quelque chose, ou par des écarts de distance, éventuellement. Et la perspective fait l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de marquer l'espace, la structure de l'espace, par des formes d'objets, elle va déterminer la forme des objets par leur position dans l'espace. Parce que derrière, il y a toute une grille. Abstraite, et qui va. Et on voit ça dans les logiciels aujourd'hui 3D, c'est exactement le même principe, de ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. Vous déformez les grilles de perspective, vous déformez immédiatement les objets. Donc la perspective, c'est ça, c'est-à-dire que ça consiste à faire dépendre l'apparence des choses de leur position dans l'espace.
C'est exactement aussi, je crois, ce pourquoi Polanski peut faire ce qu'il fait, parce que la perspective a entièrement lié la question de la représentation à la question de l'espace. Et c'est une chose dont je pense qu'il ne faut pas sortir, en vérité. Ça, je trouve ça très bien. C'est pas ça qu'il faut reprocher à la perspective. Le fait d'avoir noué la question de la représentation, la question de l'apparence. Comment les choses nous apparaissent-elles? Cette question-là, on peut y répondre par où sommes-nous, où sont-elles? C'est très beau, ça. Et effectivement, vous connaissez l'espace, vous aurez l'allure du monde, ton visage. Dis-moi où tu es, je te dirai à quoi tu ressembles. Ça, c'est très beau. Alors, c'est pas ça qu'il faut le rejeter. Ce qu'il faut le rejeter, c'est le type d'espace qu'elle a construit. Et voir qu'il y a d'autres types de. Alors, la perspective curieuse ne ferait pas mon affaire. Elle ne ferait pas mon affaire parce que sinon c'est une perspective entièrement cohérente, la perspective Curvelli. Elle suit un autre principe, c'est-à-dire qu'elle fait sa projection non pas sur une surface plane, mais sur une surface courbe. Mais ça ne change pas grand-chose du point de vue, si vous voulez, du point de vue logique, en fait, du point de vue conceptuel. Évidemment, ça ne ressemble pas exactement à la même chose, mais en fait, c'est les apparences et les positions sont corrélées de manière aussi rigoureuse, et de la même manière, l'espace doit être un espace global, homogène, etc. Donc ça ne change pas. Ce qu'il faudrait pour que ça change, c'est en fait une autre technique. C'est une technique qui permet, si vous voulez, quand vous vous déplacez dans l'espace, que les règles de projection changent en même temps. C'est ça qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que quand on se déplace, on s'en rend compte, mais il y a quand même une possibilité pour que quand je me déplace, l'espace sur lequel je me déplace change de nature. Il n'y a rien qui l'empêche, en fait. Actuellement, il n'y a rien qui l'empêche. Ce n'est pas impossible que l'espace dans lequel je me déplace change, c'est-à-dire change de dimension, change de proportion, change éventuellement même de topologie. Vous pouvez avoir différents espaces, d'accord? Et le cinéma le montre, encore une fois. Au cinéma, vous avez, en fonction des différents plans que vous ferez, vous prendrez de différents point de vue, le même espace, vous pouvez altérer considérablement les règles de projection. C'est ça que le cinéma nous dit. Le cinéma nous dit le montage introduit un problème de représentation que la perspective n'avait pas du tout, puisqu'elle était fixe. Tandis que là, vous montez. Okay? Bon, ben, c'est ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire que le cinéma permet de réinterroger ce que ça veut dire voir le monde, ou percevoir le monde, appréhender le monde, en étant en déplacement, c'est-à-dire en pouvant le saisir de différents points de vue qui ne sont pas nécessairement immédiatement traductibles les uns dans les autres, parce qu'il y a des cuts. Voilà, et donc, ça réclame un autre type d'espace. L'espace Curvelli est trop global lui-même. En fait, ça réclame un espace local. C'est ça le truc. Oui.
Oui, je voulais savoir, mais il a quand même joué un peu sur les plans calmes, non?
Ah oui, totalement, ouais. Il a joué, mais pas, ça suffit pas du tout pour expliquer les déformations d'espace du décor. Mais par contre, ça donne un effet subjectif très fort, je crois. Il y a un effet justement de subjectivation de l'espace très, très fort. Et puis en effet, ce côté, ces perspectives très baroques, très allongées. Bien sûr, oui, ça a joué. C'est une image très étirée. Bon. C'est censé être un film, je ne sais pas si vous avez eu peur, enfin, c'est censé être un film qui fait peur. Il y a des gens qui m'ont dit, et c'est marrant parce que effectivement, moi aussi j'avais eu peur quand j'étais petit. Et je ne sais pas si vous l'aviez vu quand vous étiez, moi j'avais eu peur, mais quand je l'ai revu, il y a quelques années, je n'ai pas eu peur du tout, au contraire, j'ai beaucoup ri. Et là, quand je viens de revoir avec vous, j'avais quand même, devant, je n'avais pas vu, j'ai beaucoup ri. Quoi. C'est un film très drôle, en réalité. C'est un. Qui va, mais je crois que ça va avec son message, avec cette manière de se moquer de ce qu'il est en train de faire. C'est un indice. Bon, peut-être aussi tous les films d'horreur se moquent d'eux-mêmes, si possible. Enfin, pour un thriller sataniste, il est particulièrement ironique, quand même.
Oui, j'ai l'impression qu'en effet, Roman Polanski s'est beaucoup amusé. Je ne sais pas si on s'amuse toujours, mais moi je suis complètement d'accord avec votre analyse de l'espace. J'ai l'impression d'espace emboîté.
Ouais.
Et du fait que l'emboîtement des espaces, c'est aussi l'emboîtement de la pensée, et la déstructuration de l'espace, c'est en effet la déstructuration de la pensée. Et puis quelque part, cet espace, j'allais dire cette espèce d'espace, donc cet espace déstructuré mais habité autrement, c'est aussi le corps de la femme qui, avec la grossesse, se déstructure et est habité autrement. C'est assez bizarre parce que j'ai entendu il y a 6 mois une formulation que je connaissais depuis très très longtemps mais que j'avais oubliée, qui est que dans certaines provinces françaises, quand une femme est enceinte, on dit qu'elle est habitée.
Ah oui.
Et en effet, je crois que c'est complètement ça. C'est quelque part à la fois le corps et l'esprit qui sont complètement changés par la grossesse. Donc là, moi, je retrouve dans ce que vous dites la déstructuration de l'espace et en même temps l'occupation de l'espace par cette espèce de changement qui se produit dans le corps de la femme et qui aussi, là, se produit dans l'espace où elle vit. Et il y a un exemple, je pense que vous l'avez relevé par ailleurs, qui est extraordinaire. C'est dans son rêve, quand elle rêve de la Sixtine, ou enfin qu'elle voit les peintures de Michel-Ange, elle ne les voit pas du tout, en effet, comme elles sont dans le plan de la Sixtine. Elle les restructure dans les... on a l'impression qu'elle les restructure dans les couloirs de son appartement. C'est comme si elle repeignait l'appartement avec les peintures de la Sixtine. Enfin, il y a une espèce de, je sais pas, de déambulation complètement folle de la découverte des peintures de la Sixtine dans son rêve, dans son cauchemar. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout est repensé, finalement. C'est pour ça que Polanski s'est beaucoup amusé, parce qu'il a repensé des tas de pans de l'univers, à la fois de l'univers personnel et intime de la femme, et en effet, l'univers visuel qu'on peut avoir d'un appartement, de la chapelle Sixtine, des rues de New York aussi. C'est quand même des moments où les rues de New York, les peu de scènes d'extérieur sont également déformées.
Oui, c'est vrai que la grossesse implique qu'un corps devienne un lieu, donc un occupant devienne un occupé. Et je pense en effet que c'est au cœur de ce film. C'est au cœur aussi, il y a des lectures de ce film, un peu gender studies justement, sur les problèmes de la maternité et de la représentation de la femme. Moi je trouve que c'est vraiment évident quand on voit le film que elle est occupée à la fois dans le sens où il y a un corps, mais c'est pas par ça qu'elle est occupée, elle est plutôt assiégée. Il y a des gens qui veulent rentrer à l'intérieur d'elle en réalité pour lui prendre, n'est-ce pas, son enfant. Et alors là on voit bien, c'est-à-dire la manière dont tous les hommes sont autour d'elle, les hommes et les vieux, c'est-à-dire en gros tous les êtres infertiles, pas infertiles, pardon. Ah, vrai pour les hommes, ils ne sont pas infertiles. Enfin, les êtres qui ne donnent pas la vie. Hein. Donc, tout cela, évidemment, ils cherchent à tirer de ce corps qui donne la vie ce qu'il a à donner et à lui enlever. Et il y a pas mal de. Il y a même un nom, en fait, qui est le complexe de Rosemary. Paraît-il, j'ai lu ça dans des psychiatres qui ont élaboré à partir du film. Théorie sur le complexe de Rosemary. Alors, ce qui est un peu troublant, et ça m'a troublé là en le voyant, c'est que la thèse dans laquelle le film représente un délire est une thèse qui est elle-même prévue dans le film. Et en fait, c'est la thèse des gens qui veulent obtenir quelque chose d'elle. Et alors, je me suis trouvé soudain dans la position horrible d'être Abraham Saperstein. But you are crazy, my dear lady. Et en fait, je pense qu'il vaut mieux maintenir l'ambiguïté, pas dire elle est folle. Ou c'est un thriller sataniste, mais dire en fait on sait pas si c'est psychologique cette affaire ou si c'est métaphysique cette affaire. C'est ça qui est drôle dans la grossesse. Ou la folie d'ailleurs.
Non, juste deux remarques. La première, c'est que de toute évidence, ce film est à la fois effrayant et drôle. Enfin, et Polanski n'est pas pour rien réalisateur du Bal des Vampires et quelques autres films qui sont aussi plus nettement dans la parodie. Quand par exemple le couteau tombe par terre et que le premier réflexe est de regarder s'il a laissé une trace, évidemment que là on prend une distance parodique. La deuxième chose, c'est que l'intrusion n'est pas seulement liée au vol d'enfants. Il y a un désir d'intrusion beaucoup plus tôt que ça. Et de toute évidence, la question de la distance à l'autre, de la bonne distance à l'autre, est au cœur du film, notamment précisément sur ces enjeux de déformation de l'espace. La bonne distance à l'autre, c'est par exemple le voisinage et le fait que les murs précisément ne filtrent pas, ne permettent plus de faire la distance entre soi, son appartement, son intimité et autrui. De sorte que autrui est perçu comme immédiatement voulant conquérir ce territoire-là et dépasser la frontière avec soi. C'est évidemment important parce que la question du rapport au sexe est quand même aussi très présente et que pour le coup, le rapport au sexe, c'est aussi une question de distance à l'autre et d'acceptation de le laisser pénétrer en soi. Je le dis parce que si j'ai bien vu, mais il faudrait le revoir sur une vidéo, quand il pose le bouquin « Nous sommes tous sorciers », hein, il le pose sur un double livre sur l'éducation sexuelle.
Ah oui ?
Ouais. Et en fait, quand elle va le rechercher, on explique que le livre a été jeté, il n'est plus là, mais il se trouve que les deux autres non plus. Et que donc il y a un rapport très clair établi, notamment par cet acte-là, mais ce n'est pas le seul, entre le rapport à la sorcellerie, cette intrusion-là, ce désir de vol d'enfant, et l'acte sexuel lui-même, qui a à voir avec la sorcellerie. Qu'on fait la représentation du temps, cette fois, c'est-à-dire qu'il y a deux temps volés dans le film. Il y a le temps de l'acte sexuel qui disparaît, ellipse. Voilà. Il y a eu viol, mais c'était le temps du rêve en même temps, et en même temps ce rêve est à la fois réel. Et puis il y a le temps de l'accouchement lui-même. Est-ce qu'il y a un enfant? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est déjà né? Est-ce qu'avec cette espèce de flottement temporel créé par le tic-tac de la pendule? Voilà. Donc l'intrusion, c'est pas seulement le désir de prendre l'enfant et de le voir s'échapper. Le film est quand même très évidemment un film paranoïaque sur ce que c'est que la maternité, avec à la fois ce désir et cette crainte sans cesse travailler, là on est plutôt dans le registre psychologique, et du coup le film raconte aussi très littéralement ça, c'est-à-dire l'effroi provoqué par la découverte du jeune enfant qui est à la fois autre et soi, et l'acceptation de cet autre comme pouvant être encore le sien, quoi. Donc, c'est encore son enfant, voilà. La fin du film, c'est la réconciliation avec cet autre qui est l'enfant, qu'elle assume en disant « oui, je suis bien la mère ». Donc le film est aussi très très littéral en réalité sur sa façon d'être une métaphore claire de comment, après avoir accepté que l'autre vienne en soi, on accepte qu'un autre naisse en soi et qu'on accepte de se revendiquer comme parent de cet autre-là. Dernière chose, mais intéressante, sur la question de l'espace, il y a plusieurs effets qui ne sont plus des effets optiques qui, à mes yeux, pour être honnête, sont pas si singuliers que ça. Enfin, on voit ça souvent dans l'histoire du cinéma. Ce qui est singulier ici, c'est la systématisation de la déformation de l'espace. Mais on pourrait citer 150 exemples dans l'histoire du cinéma où on travaille sur des perspectives faussées, forcées. Voilà. Donc là, évidemment, c'est le fait que tout l'appartement devienne incohérent et modifié qui est singulier. Mais l'histoire du cinéma est jalonnée, notamment dans son rapport à la folie, par des jeux de déformation d'espace qui rendent la position du sujet discutable, disons.
Oui, c'est pas forcément des... par exemple, les espaces déformés des expressionnistes, c'est pas forcément des perspectives incohérentes.
Bien sûr.
Donc là, c'est des perspectives incohérentes. Hein. Et ça, j'ai pas trouvé d'autres exemples, à part Polanski lui-même, de quelqu'un qui utilise cette technique, disons, du faux raccord spatial. C'est ça, en fait. C'est un faux raccord de l'espace lui-même, pas un faux raccord entre différents objets. Et en fait, j'en ai pas trouvé d'autres. De fait, les espaces déformés, qui sont très fréquents en effet au cinéma, c'est pas ça, c'est autre chose. Effectivement, on voit bien les espaces expressionnistes. En effet, on indique un caractère halluciné du milieu, mais pas par une référence directe à la technique perspective qui est elle-même quand même incarnée enfin, dans l'appareil de la caméra. Mmh. Ça, j'ai l'impression que c'est une invention. C'est curieux, Polanski, il invente des trucs, c'est un cinéaste bizarre, hein, qui fait ça. Mais c'est vrai que sur la question de l'espace, c'est très juste, tout ce que vous dites, c'est un thème polanskien aussi, hein, le locataire, justement.
Pierre Guffroy était venu le présenter ici. Hein.
Ah, super.
Mmh. Super. Dernière chose, mais
au début, il y a plein d'allusions. C'est un film drôle aussi, parce que quand vous le revoyez-le, c'est vraiment, ça mérite d'être revu, revu après. Il y a vraiment plein d'allusions. Quand ils arrivent, il y a quelqu'un qui est en train de faire un petit trou, un œilleton, pour voir. Enfin, il y a le fait que les appartements sont divisés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un appartement qui est dédoublé, un appartement diabolique, c'est pas? C'est-à-dire, vous avez deux parties différentes.
Oui, sans compter qu'il y a un placard vide.
Voilà, alors il y a ce placard, c'est qui est très beau, qui a une sorte de le double imaginaire de l'espace dans lequel on vit. Donc on voit bien à la fin quand ils entrent, quand elle entre pour arriver dans la soi-disant cérémonie, il y a un vrai cut, la caméra monte comme ça et tac, un cut, et hop là on arrive dans un espace avec ce décor rouge.
Plein de... C'est vraiment bien fait.
Et ce placard vide, par ailleurs, devient une espèce de métaphore de ce qu'aurait presque été son ventre, quoi, puisqu'on tendrait à lui faire penser que finalement, il n'y avait presque rien, enfin, et que sa grossesse était feinte. L'enfant est mort, donc c'est comme si elle avait eu ce placard vide en elle. Il y a une espèce de jeu de mise en elle là aussi. Et pour revenir sur une autre méthode qui n'est pas sans lien avec le caractère subjectif, objectif, un détail vraiment lié plus au montage qu'à l'espace, c'est un moment où on entend, où elle va sonner chez la voisine pour lui dire qu'il faut qu'elle y aille, qu'elle sorte, etc., et qu'elle ne pourra pas prendre le petit breuvage. Et en fait, dans le moment qui précédait, on la voyait sur le canapé et on entendait déjà la sonnerie. Et il y a un effet très bizarre par le montage, puisqu'on la croit en train de recevoir quelqu'un et on se rend compte qu'elle est la personne qui va chez l'autre et non l'inverse.
Donc là, ça, je pense que ça fait allusion au fait que Gary est sorti en prétendant, je crois qu'il sonne à ce moment-là. On entend la sonnerie parce qu'en fait c'est la sienne, je pense. On entend.
Oui, mais alors j'allais dire, on s'en fout. C'est-à-dire que concrètement, indépendamment même des raisons d'être de la sonnerie première,
la motivation narrative.
Voilà, l'enjeu. Enfin, pour dire un gros mot symbolique à cet endroit-là, c'est vraiment de montrer une espèce d'inversion des espaces où celui qui devait recevoir se trouve être en position d'être reçu par l'autre ou d'être de l'autre côté de la porte, et on est dans une espèce de réversion des espaces qui pour moi n'est pas sans rapport avec ce que vous avez mis en évidence sur les déformations spatiales.
Tout à fait, oui. Il y a, encore une fois, cet espace est double, il est divisé au milieu. Et sans cesse, il y a effectivement cette manière de construire dans l'appartement des Cassavetes, le double, l'inverse de l'appartement.
J'ai dit Cassavetes, mais c'est normal, le film joue avec ça. Ouais.
Mais il y a Roman en plus.
Bah oui, Roman, bien sûr. Fin de double.
Ouais. Roman Cassavetes. Cassavetes. Voilà, voilà.
J'avais une question.
J'ai une question. Ah, pardon.
Vous avez parlé du regard de ceux qui ne sont pas en âge de procréer ou qui ne portent pas l'enfant sur la femme. Mais moi, quand j'ai vu ce film, j'étais pas enfant, j'avais 24 ans, je pense. Et c'était bien avant les lois sur la contraception. Et j'avais été très sensible et ça m'a été ramené là sur le conflit qu'il y avait entre ce que pouvait ressentir une femme de son propre désir. Et surtout, alors ça je ne sais pas pour quelle raison, si c'était l'époque ou si c'était ma vision personnelle, ce regard de toutes ces femmes autour qui voient ce corps de femme comme étant celui qui doit procréer rapidement, dans certaines conditions. Et alors, l'été dernier, j'ai vu une bergère parler de ces brebis et dire à la fin de l'été, quand on voit que certaines sont vides parce qu'elles n'ont pas d'agneau, que c'est une perte pour l'éleveur, et donc il y a un conflit de l'attente extérieure et du vécu, et quelque chose qui vient blesser éventuellement le désir de la femme qui ne peut pas se l'approprier, son désir d'enfant.
Oui, moi je suspecte les références politiques d'être volontaires, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une référence à ce débat, à la question de la maîtrise de la grossesse, de la tentative, disons de personnages extérieurs.
Mais elle est plus symbolique encore que.
Elle était encore plus symbolique qu'opérative. Je veux dire que le fait d'avoir changé le contexte politique a transformé ou ramené à d'autres choses les attentes extérieures. Mais je pense que ça touche quelque chose d'encore plus fort que uniquement politiquement. Est-ce qu'on prend en compte ce désir de cette femme?
Oui, je comprends. Mais oui, c'est la question de l'appropriation de la grossesse.
Mais je crois que c'est la même chose que de chercher à posséder le désir de son partenaire, etc. C'est une question de est-ce que le désir est bien perçu et la création de celui qui le ressent, ou est-ce qu'il est manipulé de l'extérieur?
Oui, ce qu'on appellerait aliéné.
Oui, bah.
Finalement.
Il y avait peut-être que tu peux une grande
qui ce micro?
Ah bah,
tu
avais demandé la parole.
Qui?
Je voudrais qu'à un moment donné, tu as l'honneur que le micro est parti en haut.
Une question. Polanski va vite, il nous montre des choses et puis il ne revient pas en arrière, et notamment des rêves. Et il y a un des premiers rêves où, comment dirais-je, on pense que c'est Mia Farrow quand elle était jeune, dans un univers très chrétien, et ça m'a un peu échappé. Est-ce que vous pourriez revenir dessus, à la fois dans la nature de ce rêve et dans ce qu'il implique pour la suite du film?
Oui, bah, elle est chez les bonnes sœurs. Voilà, elle a une éducation religieuse, elle est chez les bonnes sœurs, elle se sent en faute, elle se sent coupable. D'ailleurs, tout son parcours. C'est très convaincant, ce portrait de femme qui s'excuse tout le temps, qui est prête. Même le couple est très, très convaincant. Le couple du genre, quand lui veut aller chez elle, chez les voisins. Mais elle ne veut pas, alors il arrive à la convaincre, mais dès qu'il l'a convaincue, elle dit « mais si tu veux chérie, nous pourrions ne pas y aller ». Ce type de dialogue, et alors pour le coup, qui saisit très bien ce que c'est qu'un univers familier, ce que c'est qu'un univers domestique, avec tout ça aussi, de ces cercles vicieux, presque un problème de logique. Mais voilà, donc elle est chez les bonnes sœurs, elle a une éducation catholique, comme elle l'a dit. À un moment, elle s'excuse auprès du Saint-Père, alors qu'elle est violée par le diable, de ne pas pouvoir résister. Je pense que c'est un peu le portrait d'une génération. Il faut savoir, en fait, que ce film, d'abord, a fait fureur quand il est sorti. Donc, autrement dit, ça a très bien réussi, le coup des studios. Et ils ont réussi, effectivement, à remplir leur box-office avec ce film. Et ça a eu un succès, surtout de scandale, quand même. Et notamment l'Église a recommandé de ne pas aller voir ce film, et puis énormément de fanatiques religieux, moi fanatique d'ailleurs, ont condamné le film, appelé à brûler des copies, etc. Donc ça a suscité tout un mythe. Et ensuite, Charles Manson lui-même a dit en fait qu'il avait révélé des secrets satanistes dans ce film, qu'il lui-même avait dû être initié. C'est un délire culte. Derrière ce film. Voilà, c'est. Donc, les rêves. Par contre, le rêve du viol, est-ce que c'est un viol? Je ne sais pas, le rêve de la conception, de l'immatriculée conception, est très étrange. Parce que c'est un. Effectivement, il y a ce mélange d'éléments réels et d'éléments figuratifs. C'est presque une mise en abîme du procédé du film lui-même, puisque elle, soi-disant, se réveille dans son rêve, elle se dit « mais ce n'est pas un rêve, c'est la réalité hein. ». Donc, or, le film est lui-même une manière de mettre en jeu ce partage entre la représentation et la réalité. Et alors, moi, je trouvais là, en voyant ce film, j'ai trouvé cette partie du rêve extrêmement impressionnante, justement parce que, contrairement aux conventions cinématographiques sur le rêve habituellement, mais là encore, peut-être qu'il faudrait regarder plus en détail, mais il n'y a pas de coupure nette. C'est pas facile, effectivement, de savoir qu'est-ce qui est... Bien sûr, il y a certaines images, on voit bien que c'est des images de rêve, mais finalement, on ne sait pas, justement, si ce sont des images de rêve ou pas de rêve. Et c'est très bien fait, le montage, le passage de l'un à l'autre, c'est très bien fait, alors que les rêves de... Enfin, on voit bien que c'est des projections, quoi. C'est images de rêve. On voit ce qui s'y projette. Oui.
Justement, dans le rêve, il y a une petite allusion que j'ai pas trop compris, et ça fait référence à un espace architectural où elle rêve du couvent de bonnes sœurs, et elle dit c'est pas de ma faute, ouais. À cause des fenêtres, un truc comme ça. Et il rebouche les fenêtres.
Ah, d'accord.
À cause de moi,
alors, je vois pas, peut-être il y a.
Il faudrait interpréter les rêves de Rosemary.
Mais non, oui, parce que ça a l'air d'être spatial.
Parce qu'il rebouche complètement les fenêtres, mais bon, c'était.
Ça a l'air d'être un. J'avais pas du tout fait attention à ça, mais si, Si c'est ce que vous dites, on a l'impression que ça fonctionne très bien. C'est une image d'effraction, il y a eu une effraction, l'ouverture d'un dedans sur un dehors, les fenêtres ont été cassées ou ouvertes. Ou... Donc elle a laissé passer un dedans dans un dehors.
Là, il est mûr.
Et
ils sont en train de
le ben voilà, c'est normal, elle s'excuse.
Mais c'est aussi lié au suicide de Terry, parce que finalement Terry se défenestre. Et ensuite, on ferme les fenêtres. Donc, on pourrait dire que c'est une ouverture sur la vie ou une fermeture de la vie. Enfin, je sais pas, je suis un petit peu comme monsieur, je suis pas. Enfin, c'est pas clair pour moi, mais j'ai quand même l'impression que ça dit beaucoup de choses.
Et dans le rêve, elle entend. On n'aurait pas dû lui dire est-ce qu'elle avait, ce qu'elle avait entendu à travers le rêve.
Ou ce qu'elle continue à entendre d'ailleurs.
Oui.
Je voulais répondre à cette question, mais en fait, vous avez un peu répondu. Je pense qu'en fait, il y a deux grands motifs quand même méta-cinématographiques dans le film, qui sont la fenêtre et la porte, avec le Judas qui fait toujours le lien entre les deux, qui est aussi un espace de symétrie et d'inversion. Et c'est vrai que dans le rêve, la fenêtre fait référence à la fenêtre de la défenestration, puisque c'est sa culpabilité qui s'exprime à travers elle. Enfin, à ce motif. Et c'est en réalité dans les deux, enfin en tout cas le Judas montre en réalité c'est la question de l'œil hein, qui est à mon avis le motif essentiel du film. Et c'est pour ça, enfin justement quand il y a accouchement et donc il y a expulsion de l'autre, etc. Qu'est-ce qu'est l'autre? On lui a arraché les yeux en fait, on lui a crevé les yeux à cet enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre regard, il n'y a qu'un seul regard finalement qui est celui dont vous arrivez effectivement. Donc c'est effectivement la question de la perspective et c'est une manière pour Polanski de totalement thématiser son film, de le mettre en abîme. La question
il a les yeux de son père.
Avec la question des fenêtres est-ce que c'est la caméra dont il est question, c'est-à-dire est-ce que c'est la représentation cinématographique elle-même ou est-ce que c'est métaphysique, donc est-ce que c'est parce que la fenêtre c'est le regard de l'âme ou quoi?
Mais c'est pas du tout, la fenêtre bien sûr c'est le tableau perspectif, voyons. On peut interpréter et je trouve ça assez convaincant. Je dirais la fenêtre ici c'est la fenêtre perspective. Voilà télématère. C'est vrai, toutes les petites techniques qui consistent à remettre en scène l'œil, c'est vrai que c'est un film sur. Il y a plein de yeux.
C'est l'œil en fait.
Ouais, il y a une histoire de l'œil, il y a beaucoup d'histoires de l'œil.
Merci.
Bah, de rien, merci à vous pour ces quelques suggestions. Et vous voyez le film, hein.